Ah, c'est ça. Titre un peu. Titre. Un peu étrange qu'il ne faudrait pas prendre pour énigmatique s'il est en relation avec les interventions, je ne dirais pas conférences, ni même leçons, mais enfin précédentes, qui prenaient un petit peu d'ailleurs l'allure de leçon. Là, ça serait, comme le dit Annie Agopian, la dernière, provisoirement la dernière, effectivement, peut-être. Donc, j'avais pensé aborder un thème qui est présent chez Deleuze, qui n'est peut-être pas, contrairement à mon idée, énoncé sous cette forme dans un chapitre comme les autres de l'abécédaire. Donc l'abécédaire que l'on fera passer après cette séance ne portera pas, ou tout au moins pas directement, sur ces points, puisque à P il n'y a pas puissance et il n'y a pas pouvoir. Mais c'est quelque chose qui est toujours présent chez Deleuze, et l'idée de les relier m'avait été suggérée par une autre séquence filmée ou vidéotée que j'ai eu l'occasion de voir, que peut-être certains Deleuziens parmi mes étudiants, plus compétents, infiniment plus compétents et érudits que moi, pourront reconnaître en m'en donnant la référence. C'était une très belle formule que Deleuze utilisait, et qui, comme toutes les formules deleuziennes, mérite de rester dans les mémoires. C'est pourquoi je commence par elle, en la mettant en quelque sorte en exergue, et en la laissant en quelque sorte en suspens au début de cette causerie. Il n'y a pas de puissance mauvaise, il n'y a que des pouvoirs méchants. Formule qui, comme toutes les formules de Deleuze, sont à la fois frappantes et illuminantes, puisque je vous le disais, Deleuze est un voyant et quelqu'un qui fait voir, mais qui également pose peut-être un problème. Que veut-il entendre par là? Et surtout en opposant et en mettant en confrontation deux termes qui souvent sont mélangés, sont confondus. Cela nous amène d'ailleurs à une petite réflexion entre parenthèses sur le vocabulaire philosophique. Quelques précis, quelques nécessaires qu'ils soient, le vocabulaire philosophique est un petit peu au choix de chacun des philosophes qui l'utilise, c'est-à-dire que chaque penseur donne aux mots dans son vocabulaire une signification particulière. Certains autres qui utilisent les mêmes mots pourront ne pas leur donner exactement les mêmes significations. C'est ainsi que l'on pourra dire que dans certains cas, on ne voit pas quelle est la différence entre puissance et pouvoir. Là, c'est quelque chose d'assez précis, et pour permettre de comprendre ce que ça veut dire, il faut le mettre en relation, non pas immédiatement avec Deleuze, mais avec d'autres philosophes, dont Deleuze a parlé d'ailleurs, et auxquels il emprunte ses locutions, et en particulier celle de puissance, pour en préciser le sens. Celle de puissance à travers Spinoza, à travers Nietzsche, et en particulier la puissance d'agir de Spinoza, la volonté de puissance de Nietzsche, dont il remarque à plusieurs reprises, il n'est pas le seul d'ailleurs, que ce n'est pas une volonté de pouvoir, c'est-à-dire de domination, que ce n'est pas quelque chose qui est l'apologie d'un pouvoir dictatorial, bien au contraire, mais c'est l'exaltation d'une puissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une puissance ? C'est par là que je commence. Je ferai, pour plus de clarté, peut-être comme on fait dans les dissertations, je présenterai la chose avec trois parties. La première partie serait une sorte de prélude, précisément pour éclairer un peu cette notion de puissance. La seconde partie serait consacrée à la différence et à l'interférence entre ces notions de puissance et de pouvoir, toujours en appuyant sur des textes. Et la troisième serait plus précisément consacrée quelque chose qui a été l'invention, pourrait-on dire, spécifique de Deleuze et de Guattari, c'est-à-dire quelque chose qui, en face des pouvoirs politiques proprement dit, a inauguré, instigé quelque chose qui est appelé une micro-politique, une politique d'un type particulier appelée micro-politique du désir. Alors, la puissance dans un... ce n'est pas dans un livre écrit par Deleuze, c'est dans un cours que je prends une très belle analyse, très très frappante, extrêmement simple et pédagogique, qu'il fait de la puissance d'agir dans un cours sur Spinoza, qui date de... Je l'ai ici, ce cours sur Spinoza, je vous en avais déjà parlé. Il est accessible. Il est accessible puisqu'il a été remis à un site internet. Il date du 24 janvier 1978, c'est-à-dire au moment où Deleuze était à Vincennes. C'est pourquoi je pensais que Muriel Burkhalter avait en vidéo ce texte, puisque tout Vincennes se trouve là-dedans. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on parlera ensuite sur ces problèmes de vidéo et de cours. L'essentiel, c'est de donner un peu l'idée de ce qu'il y a dans ces... À partir de quoi il parle de la puissance? La puissance, c'est d'abord quelque chose qui est en relation avec ce que Spinoza, et Deleuze reprenant à Spinoza cette même expression, appelle les affects, c'est-à-dire ce qui me met en relation avec l'extérieur, ce qui crée un agencement entre le corps propre de chacun et des choses extérieures. Il y a des affects qui sont... les affects sont ensuite continus. Chaque fois que je parle, chaque fois que je me tourne quelque part, il y a un affect. On pourrait dire que chaque regard est accompagné d'un affect, et parmi ces affects, il y en a qui ont une plus grande intensité, d'autres qui en ont une moindre, il y en a qui ont une intensité exaltante, réjouissante, et il y en a d'autres qui sont attristants. Une intensité réjouissante. Alors, il prend des exemples que je peux prendre d'ailleurs tout de suite. Je vois arriver là certains de mes amis, dont l'illustre penseur et poète Souzy, et un jeune compagnon. Et je me tourne vers eux, je vois leur visage. Ce visage est pour moi un affect aimable, agréable, qui me remplit de joie, qui me remplit de puissance, qui augmente ma puissance d'agir. Imaginez par exemple qu'il y ait au contraire une télévision qui nous représente Sarkozy, à ce moment-là, cet affect est désagréable. Et désagréable et diminue ma puissance d'agir. Je pourrais dire à un certain moment presque me rend quoi. Donc chaque fois qu'on se tourne d'un côté ou de l'autre, Il prend, si je prends les visages, c'est parce que lui, précisément, prend cet exemple en disant « je vois Pierre, je vois Paul, etc. » la vie est en quelque sorte faite de cela, c'est-à-dire une sorte de modulation continue qui fait passer l'existence dans une variation de puissance. Certaines puissances d'agir sont intensifiées, à certaines autres puissances, elles sont diminuées. L'affect joyeux, l'affect agréable est quelque chose qui augmente la puissance d'agir. L'affect, au contraire, désagréable, répulsif, c'est quelque chose qui diminue cette puissance d'agir. La vie est une sorte de continuum, est une sorte de modulation dans laquelle l'individu se crée un chemin, passe par des intensités différentes, par des variations de puissance, et ne s'arrête en quelque sorte jamais dans cette expérimentation qui, selon les orientations, selon les moments de l'instant, selon l'instant, selon les moments de la journée, fait que nous vivons dans cette perpétuelle mobilité, dans ce perpétuel devenir qui nous fait passer d'un instant d'intensité à un instant de moindre puissance. Voilà ce que c'est que la puissance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec une force que l'on exercerait sur autrui, une contrainte que l'on exercerait sur autrui. C'est au contraire quelque chose qui va dans le sens du devenir, dans le sens de ce que Spinoza appelle le conatus, qui est chez Deleuze et chez Guattari le désir, et le sens de l'existence, c'est l'augmentation de cette puissance d'agir. La volonté de puissance de Nietzsche ne veut rien dire d'autre, c'est-à-dire développer en soi toutes les possibilités de puissance d'agir, c'est-à-dire procéder aux agencements tels qu'ils augmentent notre puissance. Mais toujours dans le sens précisément de cette joie, de cette augmentation de puissance. En face de cela, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le contraire. Il y a quelque chose qui est la création de puissance triste, de puissance d'affect triste, c'est-à-dire de diminution de puissance. Je parlais du visage de Sarkozy, on pourrait parler du visage des flics, on pourrait parler de celui de Bush, on pourrait parler de celui de telle et telle autre chose que l'on voit, qui diminue notre puissance d'agir. Pourquoi ? Parce que ça nous affecte tristement. Et ça, c'est une idée extrêmement forte. Si l'on se met en relation avec ces agents, si l'on procède à des agencements qui créent des affects tristes, à ce moment-là, nous diminuons notre puissance d'agir. Et diminuant notre puissance d'agir, nous nous mettons sous la coupe des pouvoirs. Il y a une grande idée deleuzienne, on la reverra tout à l'heure, parce que je passerai très rapidement, ce n'est pas un cours en forme, bien entendu, quelques choix de texte ou de lecture. Il y a une grande idée de Deleuze, et de Félix, parce que c'est écrit avec Félix également, c'est que le pouvoir a besoin de tristesse. Les pouvoirs s'installent dans la tristesse parce qu'ils s'installent dans la diminution des affects, dans la diminution de cette puissance d'agir, dans leur désintensification. Et pour qu'il y ait qu'un pouvoir s'exerce, il faut qu'ils suscitent, qu'ils induisent la tristesse des affects. Cette tristesse est effectivement variable. On pourra en discuter parce qu'on pourrait dire qu'au contraire, parfois, le pouvoir suscite des choses qui, au contraire, sont susceptibles d'augmenter cette richesse des affects, cette joie, lorsqu'il y a organisation des spectacles, des jeux, etc. On pourrait dire, mais le pouvoir, au contraire, comme le pouvoir romain, a besoin de circe incesse, de jeux, pas même de circe incesse, de façon à s'assurer. Peut-être, mais l'analyse peut-être montrerait quelque chose d'autre, et montrerait que cette joie n'est pas une véritable augmentation de puissance, que ce n'est pas une joie réelle, comme par exemple, il y a des pouvoirs qui s'assoient sur le spectacle et qui développent effectivement un certain nombre d'aspects. Le nazisme a tout entier vécu sur la représentation de grands spectacles, un peu d'ailleurs comme cherchait à le faire la Rome impériale, mais c'était pourtant pour assurer son pouvoir. Ce problème paradoxal de savoir comment, justement, le nazisme se lie aux affects est un problème que Deleuze, on le verra tout à l'heure, a abondamment traité et d'une façon extrêmement originale. Pour le moment, je tenais surtout à insister là-dessus, c'est que le pouvoir a besoin, et tous les pouvoirs ont besoin d'affects qui ne sont pas des affects de joie, qui sont des affects tristes et qui sont des diminutions de puissance. À titre personnel, j'avais eu conscience sous une autre forme de cela il y a assez longtemps, c'est-à-dire quand j'étais jeune, quand j'étais l'élève à Clermont-Ferrand pendant la guerre, d'une personne que peut-être a connue de Deleuze, mais comme il était plus jeune que moi, il n'a pas été dans sa classe, c'était Madame Alexandre, Jeanne Alexandre, la femme de Maxime Alexandre, qui était un disciple d'Alain, et cela se passait, ça m'a frappé, je vous le raconte, parce que c'est un exemple aussi exactement de ce que peuvent vouloir dire les affects, et les puissances et les pouvoirs. C'était juste au moment de l'historique a pu mettre en œuvre, a été très rapidement canalisé, inséré à l'intérieur de l'instauration de ces pouvoirs terribles et au sens propre, profondément méchants qui ont caractérisé cette période de l'histoire et que nous connaissons d'une façon suffisamment complète depuis la disparition de ces régimes, mais qui sont toujours en position de se rétablir précisément par le biais de l'illusion des puissances qu'ils mettent en œuvre. Et là aussi se trouve enfin des productions de subjectivité qui sont également des subjectivités nouvelles qui peuvent se créer dans le cadre des significations globale, massive, représentée par le jeu politique des États et par l'installation des politiques molaires. Ces subjectivités, souvent, et dans la plupart des cas, ont été méconnues par les langages politiques. Les langages politiques ont toujours voulu canaliser les expressions de puissance de façon à les faire entrer à l'intérieur de segmentarités déjà établies. Le problème de nouvelles formes de politique, c'est d'empêcher ces formes de subjectivité de disparaître, d'empêcher également qu'elles ne s'orientent vers la constitution de nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire de nouvelles segmentarités qui les transforment en pouvoirs, qui les transforment en organisation de type dangereux pour les formes politiques de la liberté, de la démocratie, etc. Le fascisme, en quelque sorte, est toujours là parce que il peut s'emparer de ces formes moléculaires puisqu'il est toujours du côté du moléculaire. Et il se différencie d'ailleurs, autre remarque très intéressante de Félix et de Deleuze, il se différencie de ce à quoi on a l'habitude de l'identifier, c'est-à-dire simplement le totalitaire qui ne fait appelle qu'à la considération de la forme même de l'État, de la forme molaire de l'État, et qui ne voit pas ces différents éléments, ces différents flux qui créent à l'intérieur de ces formations globales des lignes de fuite qui peuvent s'orienter dans différents sens. C'est l'ambiguïté de ces orientations est ce qui fait l'intérêt le plus grand, je crois, de ce petit texte de Félix et de Deleuze autour de ces problèmes de l'organisation des micropolitiques et des micropolitiques de désir. Les circonstances de cette écriture était précisément celle où, contre les grandes formations de politique et les formations étatiques, il était question de mettre l'accent sur des mouvements qui étaient rejetés au nom précisément du danger qu'ils pouvaient représenter par les politiques majoritaires, le mouvement des femmes, mouvement des homosexuels, etc., ou mouvements régionaux, mouvements émancipateurs. On voit bien d'ailleurs comment il peut y avoir des mélanges à bien des moments de conversion vers les formations fascistes, par exemple pour les TA basques, pour les Corses. Bon, on voit que tous ces mouvements qui, dans leur origine, sont profondément, dans le sens deleuzien, moléculaires, affirmation de puissance, peuvent être repris en compte par des organisations qui les transforment en instruments de pouvoir et en pouvoir, reprenons l'expression, quelque simple qu'elle soit, mais très parlante, en méchanceté des pouvoirs. Mais cela n'est pas une raison pour faire que ces micropolitiques soient méconnues et pour qu'on les ramène à des politiques massives dans lesquelles, alors cette fois aussi, les différentes expressions de puissance, les différentes lignes de fuite et de désir couvrent la puissance, soient complètement occultées et disparaissent. C'est un petit peu le jeu que l'on a vu lors de la Révolution française, au moment où la Révolution française avait mis en mouvement toute une expansion de puissance, toute une libération de puissance contre les segmentarisations sociales, et ensuite, au moment où d'autres puissances se sont fait jour, celles en particulier les régionales, les locales, celles qui demandaient des émancipations ou des expressions de libération linguistique, c'est le pouvoir central, le pouvoir jacobin, qui a imposé son ordre, qui est entré en guerre contre ces différents mouvements, etc. Donc l'histoire, je disais que c'est un livre d'histoire parce que l'histoire entière peut être lue à travers cela, à travers ce jeu, ce mouvement, cet aller et venu de ce que sont les lignes, les flux moléculaires de désir ou de puissance, et d'autre part, les réaffirmations, les retours, les constitutions nouvelles de segmentarité qui font que ces mouvements émancipateurs sont immédiatement soit récupérés, soit transformés en leur contraire. Deleuze le disait bien, puisqu'il s'agit ici aussi de problème de la révolution n'est belle et n'est valable que dans son origine, que dans son mouvement initial. Et elle est toujours en passe de retomber, de se recoiffer, de recréer des pouvoirs ou de créer de nouveaux pouvoirs qui se retourneront contre ceux qui a commencé à s'émanciper. Donc c'est une remarquable exposition, je crois, d'une géopolitique, d'une géophilosophie, je le reprends, mais qui encore pour nous aujourd'hui est totalement valable, à la fois pour l'analyse individuelle, si nous essayons de voir quelle est notre relation relativement au pouvoir, et à quel moment se constituent les pouvoirs, à quel moment, au contraire, il y a accroissement de puissance d'agir. Et c'est également valable au niveau international, au moment où nous essayons de saisir, justement, quels sont dans les mouvements ceux qui marquent ces lignes de fuite et ces accroissements de puissance, et ceux qui, tout à coup, indiquent le retour ou l'établissement d'une segmentarisation et de ce blocage et, ou de cette cruauté que peuvent exercer les pouvoirs à l'égard de tout mouvement émancipateur. C'est pourquoi je conclue encore par cette formule en la reprenant, en demandant de la méditer, en allant jusqu'au fond d'ailleurs de ce qu'elle signifie. Il n'y a jamais de puissance mauvaise, il n'y a que des pouvoirs méchants. C'est là-dessus que je conclue, en vous demandant ensuite de discuter, mais aussi de regarder un passage de l'abécédaire de Deleuze, qui cette fois ne sera pas consacré à quelque chose qui prolongerait ce que j'ai dit, qui ne le contredit pas.